Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés du média suivant. La presse. Au programme, quand une cigale vit avec une fourmi. L'essentiel, être aimé. Identifier les émotions par la musique. Et peut-on dégâter ses enfants? Bonne écoute.
Quand une cigale vit avec une fourmi. Un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 11 février 2023 dans La Presse. Une source de conflit. Qu'on le veuille ou non, la façon dont on dépense influence notre bien-être. Des chercheurs de plusieurs disciplines commencent à sérieusement s'intéresser à notre comportement avec nos sous, notamment lorsque nous sommes en couple. Vivre avec son opposé, lorsqu'il est question de dépenser, est très souvent source de conflits et affecte même l'engagement que l'on a dans notre relation, confirme une recherche américaine publiée en 2022 dans le Journal of Financial Therapy. Définition. L'étude s'appelle « Les dépensiers et les économes chez les nouveaux mariés, perception des partenaires sur les comportements financiers et le bien-être relationnel ». Pour considérer son conjoint comme dépensier, les chercheurs ont demandé aux participants s'ils croyaient que leur partenaire de vie dépense plus qu'il le devrait idéalement. À l'inverse, celui ou celle qui épargnait plus que souhaité était perçu comme économe par son mari ou sa femme. Plus de 1500 couples américains ont participé à cette étude. Les contraires s'attirent-ils? L'adage est bien connu et souvent vrai. Dans le cas des finances, une nuance fort intéressante a été amenée il y a plusieurs années dans une étude sur la sélection naturelle des partenaires de couple. En 1998, deux chercheurs en psychologie américains, Eva Coleman et Gerald Melnelson, ont noté que les gens qui dépensent trop vont avoir tendance à s'unir à quelqu'un qui est très économe, uniquement lorsqu'ils ne se sentent pas à l'aise avec leur propre comportement, et vice-versa. Les gens qui sont bien avec leur comportement financier tendent à se retrouver en couple avec des partenaires similaires. Et, sans surprise, les conflits autour de l'argent sont moins fréquents dans ces couples où les deux amoureux ont les mêmes valeurs face à l'argent. On veut être rassuré. Il n'y a pas de hasard, confirme la psychologue Rosemary Charret. Il faut regarder pourquoi on choisit les partenaires qu'on choisit, dit-elle. Il y a une multitude de motivations, mais une de celles-là est qu'il est rassurant d'être avec cette personne parce qu'elle va nous éviter de faire des choses qui pourraient nous faire du tort. Parfois, les personnes très impulsives vont choisir des partenaires très rationnels parce que ça les rassure. À l'inverse, une personne très rationnelle peut manquer de piquant dans sa vie et la personne impulsive va lui apporter quelque chose qu'elle-même n'ose pas apporter. L'effet réactif. Ce qui est fascinant est que le fait de se retrouver face à son opposé au cœur de l'espace intime, qu'est le couple, mène souvent à une exacerbation de nos propres comportements, explique Véronique Joannis, enseignante en technique de travail social au cégep de Saint-Jérôme. Qu'est-ce à dire? La dynamique de couple va venir augmenter nos comportements, dit-elle. J'étais économe, je vais devenir encore plus économe parce que l'autre est dépensier. Je me restreins moi-même. 9 fois plus. Les hommes qui considèrent que leur partenaire dépense trop ont 9 fois plus de probabilité de se chicaner avec elle à propos des finances. Toutefois, les femmes qui savent que leur partenaire trouve qu'elle dépense trop sont aussi plus souvent en conflit dans leur couple. 11 fois plus. Le comportement de monsieur cause également des chicanes de couple, mais beaucoup moins. Il y a une image sociale qui dit « qu'être économe est meilleur. J'ai tellement vu d'écureuils anxieux. Ils ne veulent pas aller en voyage et ne priorisent pas le couple qui finit par se séparer, selon Véronique Joannis, conférencière. Une question de perception. Il n'y a pas de mesure objective pour savoir quand on dépense trop, explique Sonia Luther, professeur à Texas Tech, co-auteur de cette étude et du livre « Financial Therapy », jointe par la presse pour éclaircir ce point. Dans les deux cas, c'est le comportement de la femme qui est cause de conflit. Nos résultats montrent que lorsque les maris perçoivent leur femme comme dépensière, les conflits augmentent, sans égard aux dépenses réelles. Les femmes le savent lorsque leur partenaire les trouve dépensières, et c'est néfaste pour la relation. Ce que l'on sait d'études précédentes est que les femmes ont tendance à dépenser davantage pour les autres lorsqu'elles ont de l'argent en extra, alors que les hommes ont plutôt tendance à dépenser davantage pour eux-mêmes s'ils ont de l'argent en extra, poursuit Sonia Luther. Je crois que ce que nous voyons ici et que les maris estiment qu'il y a trop de dépenses externes. Même quand les comptes sont payés, qu'il y a de l'argent épargné et investi, s'il y a un mauvais alignement sur la façon dont le couple doit dépenser, les chances de conflit sont probables. Économe ou chiche? Comme pour le profil dépensier, les économes ne sont pas tous égaux. Certains sont carrément « pingres » ou « cheap », comme on le dit dans le langage courant. Ceux-là sont plus facilement reconnaissables selon la psychologue Rosemary Charret. Si mon conjoint est cheap, il faut voir s'il est insécure par rapport à l'argent ou s'il manque de générosité, nuance-t-elle. Dans ce cas, je ne vais pas le sentir juste dans l'argent. Je vais le sentir dans le temps, dans les tâches qu'il faut partager. C'est étendu. Que faire? Si vous êtes dans un couple asymétrique quant au comportement avec l'argent, votre situation n'est pas désespérée, loin de là. Voici de bonnes pistes amenées par Véronique Joannis pour mieux vivre avec ce déséquilibre. 1. Définir et comprendre son propre comportement avec l'argent d'une manière lucide et honnête, puis voir comment cette relation à l'argent se traduit à l'intérieur du couple. 2. Discuter. Ouvrir le dialogue à propos de l'argent en couple, sans diaboliser le comportement de l'autre ou le sien. Pour bien y arriver, Véronique Joannis conseille de partager les bons et les mauvais côtés de chacun des comportements. 3. S'entendre sur le partage des dépenses communes du couple ou de la famille. Trouver la méthode qui convient. Si on veut aller vers un compte conjoint et peut-être garder des comptes pour ses dépenses personnelles qui permettront de gérer une partie de l'argent selon les principes individuels. 4. Établir des projets communs, bâtis ensemble, et faire un suivi pour que ça ne tombe pas dans l'oubli dès qu'une autre priorité passe en haut de la liste. On s'oublie beaucoup quand on a de jeunes enfants, dit Véronique Joannis. Si en plus on veut économiser et l'autre dépense, où est le couple? Aborder l'argent en thérapie de couple. Oui, les thérapeutes financiers doivent travailler avec les individus et les couples pour améliorer le comportement avec l'argent, mais il est tout aussi bénéfique de travailler pour mieux percevoir les modèles de dépenses de l'un et de l'autre. Cela peut être fait en comprenant mieux comment chacun voit et comprend l'argent. Conclut l'étude, les dépensiers et les économes chez les nouveaux mariés, perception des partenaires sur les comportements financiers et le bien-être relationnel. Les chercheurs suggèrent de faire un budget commun. Prendre ensemble les décisions financières est un pas dans la bonne direction pour les couples, disent-ils. C'était « Quand une cigale vit avec une fourmi », un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 11 février 2023 dans La Presse. L'essentiel, être aimé. Un texte de Olivia Levy, paru le 12 février 2023 dans La Presse. Se sentir aimé, soutenu, apprécié, valorisé, c'est fondamental. C'est la clé pour le bonheur en amour, mais c'est aussi important dans nos relations amicales. Qu'en est-il de l'amour en 2023? moins idéalisé qu'autrefois, exigence plus grande, on reste tout de même encore attaché à cette idée de vouloir rencontrer une personne avec qui partager sa vie. On a tout dit sur l'amour, ou presque. Est-ce qu'on y croit encore? Sommes-nous désenchantés? Pour la majorité des adultes, il y a cet espoir de trouver l'amour, de rencontrer une personne qui va être importante pour nous et pour qui on sera important, souligne le psychologue François Saint-Père. Il y a cette volonté de tomber amoureux et de partager sa vie avec quelqu'un. Mais a-t-on besoin de la passion et du sentiment amoureux pour être bien dans la vie? Non, je ne pense pas. On a besoin, d'un point de vue psychologique, d'être apprécié, aimé, soutenu. Mais si on a des amis avec qui on s'entraide, avec qui on partage des intérêts, des sensibilités, on vit très bien, constate le psychologue François Saint-Père. Il rappelle que l'amour, c'est aider l'autre. Ce n'est pas simplement le sentiment amoureux. Il y a des gens qui ont des relations amicales très investies, enrichissantes et épanouissantes, et s'estiment très heureux ainsi. Il y a certains célibataires qui ne sont pas à la recherche de l'amour et qui vivent bien leur célibat, ajoute-t-il. Ils ont une vie sociale très satisfaisante, faite de partage et de bienveillance, et ça leur va très bien. Chiara Piazzesi, professeure au département de sociologie à l'Université du Québec à Montréal, UQAM, estime que l'idée de l'amour perdure, mais qu'il est moins idéalisé qu'autrefois. On croit en l'amour comme une source de bonheur. On continue à se mettre en couple, à se marier, à se séparer, à divorcer, à se remarier. Il y a toujours eu cette crainte que les gens soient complètement désenchantés et ne se mettent plus en couple. Cette peur a été entretenue pendant tout le XXe siècle, mais on continue à se marier et à croire en l'amour. Ce n'est plus l'amour pour toujours, mais on y croit, et on peut désormais le concevoir différemment avec des modèles de couple qui sont multiples, selon Chiara Piazzesi. Un avis que partage Catherine Péloquin, psychologue et professeure au département de psychologie de l'Université de Montréal. Elle estime que les adultes, en majorité, ont comme objectif de réussir leur vie de couple. Ça reste un idéal, une fondation, une structure de base d'être en couple, mais il y a des changements dans les modèles. Il y a des partenaires qui n'habitent pas ensemble, il y a aussi des relations plus ouvertes. Il y a plus d'équité entre hommes et femmes. Il y a aussi une conscience plus grande envers le bien-être individuel. Il y a moins de sacrifices pour la famille ou le conjoint et le sentiment qu'il faut prendre soin de soi pour être équilibré, estime-t-elle. Repenser le couple. François Saint-Père, psychologue spécialisé en thérapie de couple, constate dans son cabinet qu'il y a une plus grande ouverture chez les couples. Ce que j'observe, c'est qu'on se donne plus de liberté personnelle. Certains vont partir, par exemple, en voyage avec des amis sans le conjoint, ou encore d'autres ont le courage de discuter de la non-exclusivité sexuelle ou amoureuse. Le psychologue constate aussi que les exigences sont plus élevées. Aujourd'hui, on entre en relation non pas pour contribuer à la société comme autrefois, mais pour notre épanouissement personnel, notre bien-être. Alors les exigences sont plus grandes. On veut que notre amoureux soit notre meilleur ami, soit quelqu'un de stimulant, avec qui on partage plusieurs intérêts communs et on a moins de tolérance face à l'autre, dit-il. On demande beaucoup de choses à l'autre, mais c'est aussi la beauté et la richesse des relations contemporaines au XXIe siècle, comparée à un mariage des années 1930 ou 1950, lance Chiara Piazzesi. C'est normal. Tout est plus complexe aujourd'hui et tout se négocie. Mais ça n'empêche pas que les relations se constituent et s'épanouissent, estime la chercheuse. Pensez à soi. Il ne suffit plus de mettre l'accent sur l'idéalisation romantique. Dire qu'il suffit de s'aimer et que tout ira bien, ce discours ne marche plus. Il y a d'autres facteurs qui doivent fonctionner pour que deux personnes puissent réaliser un projet de vie en commun. Il y a l'écoute, la bienveillance, la bonne communication entre les partenaires, la capacité à se mettre à la place de l'autre. Ce sont des changements dans la culture intime. Ça complexifie les relations, mais pour le mieux, pense Chiara Piazzesi. Faut-il rappeler qu'il est important de consacrer du temps à son couple? Le défi est de ne pas le reléguer au second plan, surtout quand il y a des enfants. Il faut prévoir du temps pour son partenaire et maintenir ce lien privilégié qu'on a avec son amoureux, indique Catherine Péloquin. Le fait de vivre une relation amoureuse heureuse et épanouie comporte des bienfaits psychologiques. On a une plus grande satisfaction de vie, un plus grand bien-être, une meilleure sexualité, moins de difficultés psychologiques, moins de problèmes d'abus de consommation de drogue ou d'alcool, mais attention, il est préférable d'être seul qu'avec un partenaire amoureux qui ne nous soutient pas et ne nous valorise pas. C'était L'essentiel, être aimé, un texte de Olivia Levy, paru le 12 février 2023 dans La Presse. Identifier les émotions par la musique. Un texte de Jean Siag, paru le 12 février 2023 dans La Presse. Une étude récente menée par des doctorants de l'UQAM mesure pour la première fois des états émotionnels grâce à la musique, au même titre que les mots. Une avancée qui pourrait aider les personnes qui ont de la difficulté à exprimer leurs émotions, dont les personnes autistes. L'auteur principal de l'étude, Eric Hannigan, avoue avoir même été étonné d'apprendre qu'aucune mesure des émotions ne se servait de la musique à ce jour. On sait qu'il y a une connexion entre la musique et les émotions et que ces connexions n'ont pas de barrière culturelle. Plusieurs études l'ont démontré par le passé, nous dit-il. Le simple fait d'écouter de la musique va induire des émotions parfois plus facilement qu'avec les mots. Pour mener à bien l'étude, l'équipe d'Eric Hannigan, qui comprend Ariel Bonneville-Roussy et Christophe Fortin, a réuni 280 participants qui ont validé leur état émotionnel en écoutant 32 extraits audio d'une quinzaine de secondes. 4 émotions ont été traduites musicalement. La joie, la tristesse, la peur et la sérénité. De la musique de laboratoire. Fait important à noter. Ces extraits de musique instrumentale interprétés au piano ne provenaient pas de compositeurs connus pour ne pas influencer les participants ou induire des émotions différentes d'une personne à l'autre, mais ont été créés dans un laboratoire de neurosciences, laboratoire Isabelle Peretz, et font partie du domaine public. On a comparé les résultats de la mesure des émotions par la musique avec un autre questionnaire qui utilise des mots, explique Eric Hannigan. Par exemple, un individu qui a choisi les extraits de musique joyeuse pour décrire l'état dans lequel il se trouvait avait tendance à faire une sélection d'adjectifs positifs dans le second questionnaire. C'était notre façon de valider la corrélation entre la musique et les mots. Selon Eric Hannigan, ces résultats pourraient être utiles auprès des personnes qui ont de la difficulté à identifier leurs émotions. En leur présentant des extraits musicaux, on est en mesure de savoir comment ces personnes se sentent. Ça peut être une façon de les aider à mieux les exprimer. On pense entre autres aux personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme, dit Eric Hannigan, auteur principal de l'étude. Bonifier le vocabulaire musical. Évidemment, le vocabulaire émotionnel exploré dans cette étude, véhiculé par la musique, est limité à 4 émotions de base. Est-il envisageable de complexifier ce vocabulaire? « Je pense que ce serait possible, » répond Eric Hannigan. « Pour cela, il faudrait créer d'autres extraits qui couvrent un spectre plus large d'émotions, mais il fallait d'abord valider que ça fonctionnait avec quatre émotions de base. Et la réponse est « oui ». Donc, ça ouvre un nouvel espace de recherche pour nous. La prochaine étape pour Eric Hannigan est de créer des seuils cliniques avec son questionnaire pour évaluer les différents états dépressifs. Si une personne choisit beaucoup d'extraits musicaux qui sont tristes, est-ce qu'elle présente plus de risques d'avoir des symptômes de dépression? C'est sur cette question que je travaille. C'était « Identifier les émotions par la musique », un texte de Jean Siag, paru le 12 février 2023 dans La Presse.
Peut-on dégâter ses enfants? Un texte d'opinion de Maude Goyer, paru le 3 janvier 2023 dans La Presse. Votre enfant a déballé ses cadeaux frénétiquement, le papier d'emballage revolant dans les airs. Les nouveaux jouets s'entassent maintenant dans un coin du salon. Bien que vous soyez reconnaissant de la générosité de la parenté, est-ce un beau souvenir de Noël ou la démonstration d'un enfant trop gâté? Mère de jumelles de 4 ans et d'un bébé de 1 an, Geneviève Gay a déjà vécu cette scène d'emportement désorganisé où les enfants deviennent surexcités, voire fous, devant la montagne de cadeaux à ouvrir. C'était la fête des jumelles, raconte cette résidente de la Mauricie, et elle déballait à la vitesse de l'éclair sans s'intéresser aux jouets et sans remercier la personne qui leur donnait le cadeau. Je n'en revenais pas. Est-ce que c'était ma faute? Est-ce que j'avais élevé des monstres? Une fois l'épisode passé, Madame Guy s'est demandé si elle pouvait revenir en arrière. Peut-on dégâter ses enfants? Tout ce travail, il n'est jamais trop tard, lance la psycho-éducatrice Stéphanie Deslauriers, mère d'une fillette de 4 ans. Selon elle, un peu d'introspection est nécessaire avant d'ouvrir la discussion. On est le modèle de nos enfants. Quel est notre rapport au matériel et à la consommation? Il faut être en mesure d'avoir un regard franc et honnête envers soi-même. La psychologue Nathalie Parent croit, elle aussi, que notre propre attitude va beaucoup orienter les enfants. Si les parents sont dans l'équilibre lorsqu'ils font des achats, s'ils sont dans la gratitude, il y a de fortes chances que les enfants le seront aussi. En tant que parent, si on ne dit jamais « merci », si on ne reconnaît pas ce que les autres font pour nous, les enfants risquent de retenir cela, indique-t-elle. Mais d'abord, comment savoir si notre enfant est gâté? S'il passe d'un bien à l'autre sans grand intérêt, s'il ne remercie pas les personnes, s'il tient pour acquis ce qu'il reçoit, bref, s'il n'a pas conscience de ses privilèges, c'est un signe, avancent les deux expertes. Madame Parent nous invite aussi à observer nos émotions face aux agissements de nos enfants. Lorsqu'on est irrité par son comportement, qu'on a l'impression, par exemple, de tout faire, d'être au service de tous les membres de la famille, il est temps d'en parler et de distribuer les tâches. Yann Costa, Montréalais, père de 2 adolescentes, n'aime pas le mot « gâté », car il croit que cela décrit un état permanent, comme si c'était un fait immuable. Je ne vois pas ça comme un trait de caractère, mais comme un comportement, confie cet éducateur. Chez lui, tout le monde a ses responsabilités et ses tâches à faire. Et il a toujours résisté à donner de l'argent pour récompenser les services rendus à la maison. Ça n'a aucun sens pour moi. On vit tous dans la maison, tout le monde doit mettre la main à la pâte. Dans ce même état d'esprit, il se rend chaque année avec sa famille dans un centre de dons pendant la période des fêtes. On est à même de constater qu'on est chanceux et que certaines familles ont des besoins non comblés, illustre M. Costa. Par des petits gestes comme celui-là, les parents peuvent aider leurs enfants à développer des valeurs comme la solidarité, l'empathie, la compassion, l'ouverture, ce qui aide à mettre les choses en perspective. Mais attention, prévient Stéphanie Deslauriers. Il est normal chez les enfants de demander des jeux et des jouets. C'est attrayant pour eux. L'idée n'est pas d'interdire, mais peut-être de leur apprendre à tolérer un délai, suggère-t-elle. Si on attend à demain ou à après-demain, est-ce qu'il va en reparler? Établir un budget, le maintenir et fixer des limites est aussi une bonne façon de ne pas trop gâter son enfant et de lui montrer la valeur de l'argent. Dès l'âge de 7 ou 8 ans, un enfant a la maturité de parler de consommation, d'achat, d'argent et de surabondance, croit Nathalie Parent. Au lieu de sermonner, j'aime bien poser des questions et voir avec l'enfant comment on peut régler la problématique, dit-elle. Comment il voit cela? Qu'est-ce qu'on peut changer ensemble? La psychoéducatrice Stéphanie Deslauriers aime offrir des solutions de rechange aux biens matériels, offerts en cadeau. Des sorties, des activités, des repas spéciaux, des coupons pour accéder à des surprises ou des privilèges, par exemple. C'est une façon de se créer des souvenirs et de mettre de l'avant le fait que le plus important, au fond, c'est le temps passé ensemble, conclut-elle. C'était « Peut-on dégâter ses enfants ?» un texte d'opinion de Maude Goyer, paru le 3 janvier 2023 dans la presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage et Robert Chartier à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.